Je veux revenir sur la question des erreurs médicales. Vous avez vu depuis le début de la semaine, avec les articles, et en fin de semaine, les articles du journal La Presse, et aussi la réaction du CISO, l'Outaouais, c'est la pire région, 51 décès, on va dire évitables, qui sont dus à des erreurs médicales. Ils font suite donc à des rapports du coroner, etc. Pourquoi je reviens là-dessus aujourd'hui? C'est parce que le Collège des médecins, c'est quand même important, là, c'est un ordre professionnel. Et le but d'un ordre professionnel, c'est la protection du public, la raison d'être. Vous savez, cette semaine, j'ai parlé à la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Leur job, ça, c'est de représenter leurs membres qui sont des médecins spécialistes. Le Collège des médecins, c'est pas ça. C'est pas un syndicat de médecins. C'est vraiment l'ordre qui contrôle, comme le barreau du Québec, comme l'ordre des CPA du Québec. C'est l'ordre qui contrôle, dans le fond, ou qui protège le public. Eh bien, pourquoi je vous parle de cela? C'est parce que on apprend que le Collège des médecins souhaiterait ou supporterait la notion de no fault en pratique médicale. Un peu à l'image de ce qui se passe dans l'assurance automobile, on la connaît, là, on connaît ce principe-là ici au Québec, le no fault. Alors, si vous frappez puis il y a des blessés, ben vous n'allez pas poursuivre la personne qui vous a frappé en voiture. L'assurance québécoise là, de la Société de l'assurance automobile du Québec va venir compenser. Il y a des gens qui pensent que c'est pas bon, ça, notamment Marc Bellemare, l'avocat, l'ancien ministre de la Justice, qui pense que ça n'a pas de bon sens, qu'il y a un gars chaud au volant qui tue quelqu'un, lui, il s'en sort indemne, il ne se fait pas poursuivre parce qu'on a le no fault. Il y a ce débat-là présentement au Québec, mais c'est de cela qu'il s'agit. Et le Collège des médecins semble dire, je vais aller vérifier ça, que ça serait une bonne idée, ça simplifierait la chose pour les patients lésés, que d'avoir un système de no fault. Et pour en parler, c'est avec grand plaisir que je l'accueille. Il est secrétaire au Collège des médecins, le Dr Yves Robert est mon invité. Dr Robert, bonjour.
Bonjour,
merci.
Bonjour, monsieur.
Merci d'être là.
Je vous en prie.
Alors, Dr Robert, vous avez écouté mon introduction. Le Collège des médecins...
excellente introduction.
Bon, ben, OK. Ça commence bien. Donc, c'est ce que vous souhaitez, un no fault.
Oui, mais en fait, un système mixte, parce que une des faiblesses du no fault qui fait probablement l'objet des discussions de M. Bellemare sur le régime d'assurance automobile, c'est qu'il n'y a pas de poursuite civile qui est autorisée. Alors que il existe de façon très pointue depuis 1984 un système qui peut être intéressant, c'est celui de l'indemnisation des victimes des programmes d'immunisation. Le Québec a été le précurseur, puis j'allais dire encore au Canada, l'unique province qui indemnise des personnes qui peuvent avoir des effets secondaires avec des invalidités, même si c'est rare, suite à l'immunisation. Et la façon que ça fonctionne, c'est que le patient qui a l'invalidité, il choisit un médecin, il demande au ministère, identifie un médecin qu'il représente, le ministère identifie un médecin, puis les deux médecins identifient un troisième médecin, et ils répondent à deux questions, est-ce qu'il y a un lien avec la vaccination, et si la réponse est oui, quel est le niveau d'invalidité, puis on fait une indemnité en fonction des chartes d'indemnité de la Société d'assurance automobile qui sont établies depuis longtemps en fonction des invalidités. L'avantage du système, c'est que ça n'empêche pas, et c'est là qu'est la clé, ça n'empêche pas le patient de poursuivre au civil un professionnel qui serait responsable de sa faute. Et il pourrait éventuellement obtenir une indemnité par le jugement d'une cour civile et choisir entre l'indemnité publique ou l'indemnité civile la plus intéressante des deux, selon lui. L'avantage de ça, c'est que ça lui permet d'avoir plus qu'une option pour avoir une indemnité. Ça lui permet déjà d'avoir une indemnité plus rapidement que d'attendre un jugement de cour qui peut prendre parfois des années. Il y a eu un cas dans l'article de La Presse d'aujourd'hui où ça a pris 7 ans avant d'avoir une décision. Et la personne était paraplégique. Donc, et puis, le problème qu'on a, c'est que il faut prouver la faute. Donc, s'il n'y a pas eu de faute, et on sait qu'il y a des interventions qui sont à risque et qui peuvent causer des invalidités en soi, à ce moment-là, il n'y a pas de faute et la personne ne peut pas avoir d'indemnité dans le système actuel. C'est là qu'est le problème. Et voilà pourquoi un système, entre guillemets, de no fault, c'est pas de mettre en place un système où personne n'est responsable. C'est pas ça l'idée. C'est de pouvoir avoir accès à une indemnité sans avoir à démontrer qu'il y a eu effectivement une faute et que s'il n'y avait pas de faute, ben il n'y a pas d'indemnité. Et c'est là qu'est le problème parce que la personne est prise avec son invalidité de toute façon. Alors, il faut pouvoir assumer ces risques-là et offrir une forme d'aide à des patients qui font face à des situations qui sont souvent très dramatiques.
OK. J'ai beaucoup de questions en lien avec ce que vous venez de dire. D'accord. On va commencer par ce que j'entends, moi, c'est, dans le fond, là, vous souhaitez déresponsabiliser les médecins.
Non, pas du tout, au contraire. Et voilà pourquoi on veut le système mixte. C'est-à-dire que le patient pourrait avoir une forme d'indemnité plus rapide, mais ça ne l'empêcherait pas de poursuivre le médecin qui pourrait être connu responsable d'une faute.
Ouais.
Donc, c'est justement l'avantage du système mixte, c'est que le médecin est loin d'être déresponsabilisé. Puis quand on parle du médecin, là, il faut être prudent aussi, parce que dans tous les cas qui ont été rapportés dans la série d'articles depuis samedi,
ouais,
il n'y a pas que les médecins qui sont responsables des fautes. Là. Il y a d'autres professionnels de la santé dans le réseau, il y a des erreurs de système où il y a eu des oublis, des problèmes de communication, des choses comme ça.
Ouais.
Donc, il n'y a pas que les médecins qui sont impliqués là-dedans. C'est okay. Le système de santé aussi.
OK. Vous avez raison de dire ça, que ce n'est pas que les médecins, mais il y a aussi des médecins.
Non. Il y a aussi des médecins. Vous avez raison.
OK. Sauf que, dans la vraie vie, on vous dit, voici la possibilité d'une compensation. Vous n'avez rien prouvé, pas de faute à prouver. Ou aller en cours contre un médecin, puis vous allez être obligé de prouver la faute. J'ai l'impression, moi, qu'il y a bien des fois que le citoyen va décider de prendre cash for life vite fait au lieu d'avoir le fardeau de prouver la faute. Puis ça va faire bien l'affaire du médecin.
Ben, écoutez, il n'y a aucun système de parfait. La possibilité de poursuivre va toujours être là. Sauf que c'est sûr que le patient qui pourrait avoir une indemnité, puis il faut bien comprendre que généralement les indemnités du réseau, du système, d'un système public quel qu'il soit, sont généralement inférieures à celles qui pourraient être obtenues en cours.
C'est sûr.
Donc ça peut créer un incitatif à vouloir aller en cours.
Mais il n'y a pas de risque. Il y a zéro risque. Tu vas en cours, tu prends un risque.
Ben c'est sûr. Mais actuellement, la seule voie pour un patient, c'est d'assumer. C'est celle-là.
Oui.
Il n'y en a pas d'autre.
Oui.
OK? Donc, la question, c'est que le patient qui, avec toutes les conséquences qu'on sait qu'entraîne une poursuite,
oui,
il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas de plan B.
Oui.
Donc, s'il perd dans la chose, il ne gagne pas. Donc, l'idéal, c'est de trouver un système qui présente les avantages d'un système et de l'autre en même temps pour le patient. Donc, actuellement, il y a des patients qui, n'ayant pas pu prouver ou n'ayant pas les moyens de faire une poursuite, se retrouvent devant rien du tout. Alors, c'est là la question.
OK. Dites-moi, quand on parle d'un système d'indemnisation sans faute, je vais utiliser oui, probablement un mauvais mot, là, mais c'est une assurance, c'est un oui, pot d'assurance, puis
oui,
on va verser, on va compenser nonobstant la faute. On n'a pas besoin de prouver la faute. Alors, jouez avec moi dans ce film-là. Ce pot d'assurance-là serait garni par des cotisations ou des primes payées par qui?
Ça, c'est une bonne question. Et là-dessus, j'ai pas la réponse, puis il faudrait poser la question aux actuaires et faire l'objet du débat. Il y a plusieurs sources possibles. Bien sûr, les professionnels pourraient y contribuer. Puis quand je dis aux professionnels, c'est qu'actuellement, pour ce qui est des médecins, il existe une mutuelle qui s'appelle l'Association canadienne de protection médicale qui assure généralement la grande majorité des médecins canadiens. Pas tous les médecins, parce qu'il y en a qui ont des assurances privées aussi, mais la grande majorité, au moins 80%. Et cette mutuelle-là, bien évidemment, se défend contre d'éventuelles poursuites et pourrait faire des règlements hors cours. Sauf qu'il n'y a pas que les médecins qui sont dans le système de santé. Il peut y avoir des erreurs causées par les infirmières, par les ergothérapeutes, par les physiothérapeutes, par d'autres professionnels et par des non-professionnels. Et là, je faisais allusion au système de santé lui-même. Donc, la question, c'est, oui, peut-être qu'il pourrait y avoir une contribution de la part des médecins, mais il devrait y avoir une forme de contribution quelconque des autres acteurs qui pourraient être des personnes plus ou moins responsables d'un effet secondaire. Et il faut comprendre également que, et ça fait partie du consentement qu'on fait aux patients devant une intervention chirurgicale, par exemple, il y a des risques inhérents à l'intervention parfois où il peut se matérialiser, ce risque-là, sans nécessairement qu'il y ait eu une intention ou une négligence. C'est là qu'est le problème. Et un système d'assurance comme ça permettrait de couvrir aussi ceux-là où la faute n'est pas prouvable. C'est là qu'est la difficulté. Donc, ça élargirait la couverture, ça permettrait aux patients de pouvoir être couverts. Mais là, la question qui reste à savoir, c'est comment on le finance. Et là, c'est une question que j'aimerais adresser à des actuaires
ouais,
qui sont certainement plus savants que moi dans ce domaine.
Mais les probabilités sont assez grandes qu'ultimement, là, c'est le contribuable qui finance ça.
Ben, au bout de la ligne, c'est le contribuable, soit dit en passant. Tous les systèmes, dans les pays où il y a des systèmes d'indemnisation de cette manière-là, c'est l'État qui fournit une grande partie de ça, donc les contribuables, parce c'est que ça. C'est un risque lié au système de santé qui est assumé par la collectivité. Mm-hmm. C'est ça qui est un peu l'idée derrière ça, c'est sûr.
Évidemment, les primes d'assurance pour le malpractice, là, vont diminuer chez les médecins. Fait que ceux qui s'enregistrent là-dedans, c'est les médecins.
Ben, pas nécessairement, parce que le risque de poursuite individuelle demeure. Ouais. Donc, dans le système actuel, la prime de la CPM, elle est partiellement remboursée par l'État pour essayer d'étaler ou d'équilibrer, si je peux dire, le poids pour les professionnels eux-mêmes. Okay. C'est vrai pour les médecins, c'est vrai aussi pour d'autres professionnels dans leur régime d'assurance. Et donc, il y a déjà une contribution de l'État.
D'accord. J'aimerais ça, Dr. Robert, on va terminer avec ce volet-ci. Je vous écoute, puis je me dis, il me semble que c'est pas le bon interlocuteur qui me parle de ça. Le Collège des médecins, sa job, c'est pas de compenser des erreurs médicales, puis de trouver des mécanismes pour compenser des erreurs médicales. La job du Collège des médecins, c'est de prévenir, puis de sanctionner ceux qui en font, parce que votre job, c'est de protéger le public, pas de compenser le public. Expliquez-moi pourquoi vous jouez dans ce film-là. C'est pas votre job.
Bien, c'est parce que pour nous, c'est une forme de protection du public de lui permettre d'avoir accès à une indemnité. Et dans ce sens-là, patients qui n'ont pas accès à une indemnité parce qu'il y a eu soit un risque inhérent à une intervention, soit une négligence, ils ont droit d'être indemnisés, ce qui présentement n'est pas le cas pour tous les patients. Et c'est là qu'est le problème.
Ouais.
Mais on va faire notre job par ailleurs sur les médecins.
Ouais, parce que c'est ça votre job, c'est de protéger le public.
Ben oui.
Vous dites protéger le public.
À travers notre juridiction sur les médecins.
C'est ça. Mais vous me dites dans le fond, là, M. Cholette, protéger le public, c'est non seulement m'assurer que les médecins soient compétents, que mon syndic fasse une bonne job, que j'évalue les pratiques médicales, non seulement ça, mais quand on va en avoir échappé, là, parce que mon objectif, c'est zéro erreur, mais quand on va en avoir échappé, nous autres, on milite pour que les citoyens soient compensés, provenant notamment des fonds de l'État.
Oui, parce que comme je vous le dis, il y a des risques inhérents à certaines interventions chirurgicales. Des interventions qui ont zéro risque, ça n'existe pas.
Ouais.
Donc la question, c'est quand le risque se matérialise. Plus rarement, on le souhaite avec des bonnes techniques et tout, mais des fois, ça arrive. Et c'est ça qui est d'ailleurs le principe de l'accident. Quand c'est l'accident, c'est généralement pas planifié d'avance. Bien au contraire, on essaye de le prévenir.
Mais il y a une différence.
Sauf que quand ça survient puis que le patient a son invalidité, bien là, il fait quoi le patient? C'est ça la question.
Oui, mais il y a une différence entre accident puis erreur médicale.
Oui. Absolument.
Là,
pour cette raison-là qu'il faut la faire, cette chose-là. Et d'ailleurs, quand on parle d'accident, et qu'on utilise le terme accident médical ou incident médical ou erreur médicale, c'est pas toujours un médecin qui est impliqué.
C'est vrai. Non,
ça,
vous avez raison. Non, non, ça, je vous le donne.
Oui.
Dernière chose, est-ce que ce que vous dites, là, no fault pour ce qu'on vient de discuter, est-ce que ça existe ailleurs au Canada?
Au Canada, non, pas du tout. Et puis, j'allais dire, mais pas en Amérique du Nord. Mais ça existe dans d'autres pays. La Nouvelle-Zélande en a un. La France en a une forme qui est un petit peu moins élargie. Et c'est des débats qui sont permanents. Donc, la question, c'est, est-ce qu'on pourrait en discuter? Parce que, qu'on le veuille ou non, et ceci, comme je vous dis, c'est pas une nouvelle idée. Là. Ça date de plusieurs décennies.
Ouais.
La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les patients qui se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas d'aide monétaire, où ils ont subi un préjudice et où ils n'ont pas d'option autre que de poursuivre et où la poursuite ne leur permet pas d'avoir une indemnité. C'est ça la question.
J'ai bien compris. Très clair. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.
Je vous en prie. Ça
merci.
Fait plaisir.
Merci, Dr. Robert. Yves Robert, il est le secrétaire au Collège des médecins.